remue-ménage. Remue-ménage, c'est Onde Femme sur Radio Zone 93,8 tous les mercredis en direct de 17h à 18h30. L'émission est rediffusée le jeudi à 10h et 15h. Remue-ménage sur Radio Zone 93,8. Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Onde Femme, Radio Zone 93.8, comme tous les mercredis et tout de suite en direct, c'est Remue-ménage. Aujourd'hui, Remue-ménage, eh bien, nous avons rendez-vous avec notre amie Annette Zimmermann de la librairie des femmes, l'Inédite. Bonsoir Annette.
Bonsoir Catherine.
Et nous nous réjouissons beaucoup de la continuation de cette collaboration. Nous vous rappelons que déjà maintenant, depuis quelques années, nous collaborons avec la librairie L'Inédite à Genève et avec Annette en particulier. Nous regrettons l'absence d'Evelyne, qu'elle nous entende bien et qu'elle essaye de nous revenir le plus vite possible, si elle nous entend. Et aujourd'hui, eh bien, nous vous proposons de découvrir la biographie d'une femme très très particulière, qui a vécu une vie incroyable et que l'on retrouve dans une biographie signée Alexandra Lapierre, c'est Fanny Stevenson. Alors peut-être que ce nom ne vous dit rien du tout. Annette, tu as connu beaucoup de femmes qui connaissaient Fanny Stevenson autour de toi ?
Non, vraiment c'est quelqu'un qu'on découvre absolument aujourd'hui.
Alors dans quelques instants, le temps de vous faire écouter une chanson de Diane Dufresne, eh bien vous découvrirez ce qui est Fanny Stevenson.
Ce soir, t'as changé d'un coup en amour notre amitié. Tu as risqué ce coup, ça moi aussi je l'attendais. Les jours, les nuits.
femme. Loyale et sombre, vivante et vraie, avec des yeux d'or et de mûres sauvages, droite comme une lame, intègre comme l'acier, telle est celle que le maître d'œuvre m'a donnée. Fureur et valeur, honneur et flamme, un amour que la vie n'a jamais pu user, la mort épuisée, l'enfer abîmé, telle est celle que le Tout-Puissant m'a donnée. Maître et tendresse, camarade et maîtresse, épouse, compagne de route, fidèle jusqu'au bout du voyage, âme libre, cœur épris d'absolu, telle est la femme que Dieu m'a donnée.
Annette, qui écrit ce très bel hommage à une femme?
Il s'agit donc de Robert Louis Stevenson, qui est le grand écrivain d'origine écossaise, qui a écrit en anglais une œuvre très très importante, mais qui est traduite en français, mais dont on connaît surtout Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et évidemment L'île au trésor. Il faut d'ailleurs dire que Stevenson, longtemps, a été considéré plutôt comme un écrivain pour la jeunesse, alors que quand on découvre ses œuvres, eh bien, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas, qu'au contraire, il a énormément écrit pour un public adulte.
Alors, va-t-on découvrir Fanny Stevenson par l'intermédiaire de Robert Louis Stevenson?
Non, bien sûr que non. Le but de ce livre, le but de cette biographie, c'est de rendre hommage à elle en tant que personnalité extrêmement attachante, extrêmement intéressante et qui, bien sûr, a passé une bonne partie de sa vie avec Robert Louis Stevenson, qu'elle a beaucoup aidé, pour lequel elle s'est passionnée, pour l'œuvre duquel elle a énormément donné. Et à ce propos-là, Robert Louis Stevenson a aussi écrit un petit texte que j'aimerais vous lire et qui rend hommage à tout l'effort qu'elle a fourni pour l'aider dans la littérature. Prends toute l'œuvre, elle est tienne. Qui a fourbi l'épée, qui a soufflé sur les braises mourantes, qui a maintenu la cible, immobile, toujours plus haut. Avare en compliments, prodigue en conseils, qui sinon toi? À la fin du parcours, si l'écriture vaut quelque chose, si le travail s'est accompli, si le feu brûle sur cette page imparfaite, c'est à toi seul, que la gloire est due.
Parce qu'effectivement, Annette Fanny Stevenson ne s'est de loin pas contentée d'être l'épouse de Robert Louis Stevenson, mais elle a, en tant que femme qui a vécu à cheval sur la fin du 19e et le début du 20e siècle, vécu une vie incroyable pour les femmes de son époque. Elle a voulu tout concilier, mais bizarrement des personnages assez particuliers de femmes, c'est-à-dire une femme très traditionnelle quelque part, et en même temps une femme complètement incroyable parce qu'elle pouvait faire à son époque. Elle a vécu des aventures qu'aujourd'hui, je suis sûre, beaucoup de femmes hésiteraient à vivre,
oui,
même aujourd'hui en 1993.
Elle ne se lancerait probablement pas dans un certain nombre d'équipées,
voilà,
comme elle l'a fait.
Donc, c'est de tout ça que parle cette biographie magnifique écrite par Alexandra Lapierre.
Tout à fait. Et je crois que c'est, entre autres, un parcours assez exemplaire. Et quand tu dis que c'était une femme qui était traditionnelle, j'ai envie de dire surtout au début de sa vie de femme, dans sa jeunesse, dans sa vie d'épouse, parce qu'elle a épousé d'abord un Américain avant d'être l'épouse de Robert Stevenson. Et dans ce sens-là, c'est très intéressant pour nous de voir que on se conquiert en tant que femme avec une personnalité et que ça demande un certain travail, si je puis dire.
Alors, chères auditrices, nous avons découvert toutes les deux, Annette et moi, ce livre. Moi, grâce à la proposition d'Annette. C'est un immense bouquin. Quand vous vous y attaquez, c'est pour un bon moment, mais ça vaut la peine. Et Annette, nous avons décidé, conjointement avec Annette, de vous présenter Fanny Stevenson un peu le long de sa vie, mais surtout pour vous montrer un peu des formes de son caractère. Parce que c'est une femme assez incroyable, on vous l'a dit, mais qui en plus est surprenante dans sa façon de résister et réagir. Des fois, elle est incroyable de force et tout à coup, à d'autres moments, elle s'effondre. Ce qui est quand même bien normal. On ne peut pas être héroïne 24 heures sur 24. Il y a des moments où les difficultés auxquelles on est confronté font que parfois on craque.
C'est peut-être aussi pour cela que cette biographie plaît tellement. Et je tiens à dire que nous la vendons régulièrement à la librairie et qu'elle a beaucoup de succès. Et c'est aussi, c'est une femme justement qui, avec ses faiblesses, communique bien avec chacun et chacune.
On peut aussi le dire, mais ce sera la dernière partie de notre émission. Ce qui est aussi de très étonnant dans cette biographie, c'est la façon dont elle a été réalisée. Je crois qu'on peut déjà annoncer ça,
oui,
Annette.
Oui, bien sûr que Alexandra Lapierre a fourni là un travail en somme de détective de très longue haleine. Elle a une bibliographie d'ailleurs extrêmement fouillée à la fin du livre et on se rend compte que c'est un document historique et pas seulement une biographie.
Ni plus ni moins, elle a vécu quasiment 5 ans sur c'est les pas de Fanny Stevenson, n'hésitant pas même à voyager, etc.
Et comme Fanny Stevenson a parcouru presque le monde entier.
C'est pourquoi ça lui a pris 5 ans.
Tout à fait.
Alors nous évoquerons justement cette démarche particulière d'Alexandra Lapierre en fin d'émission. Mais tout d'abord, bien sûr, découvrons le personnage qu'est de Fanny Stevenson. On dit Stevenson ou Stevenson? Non, Stevenson, il y a un seul O, je crois.
Je crois qu'on dit
Stevenson.
Stevenson.
Voilà.
Mais avant d'être Madame Stevenson, et ça ne se passera pas très très facilement pour elle, elle est une jeune fille qui s'appelle Fanny Jacob et qui se marie très très jeune. Elle a passé son enfance à Indianapolis, aux États-Unis, dans une famille modeste. Elles étaient plusieurs sœurs à être éduquées ensemble et elle a peut-être eu là une occasion différente des jeunes filles de sa génération, c'est-à-dire que son père était un personnage qui s'intéressait beaucoup à l'éducation de ses filles, dans le sens qu'il voulait les laisser s'exprimer. Et il pensait que c'était très important que ces jeunes filles puissent vraiment réaliser ce qu'elles voulaient. Elles ont donc pu, entre autres, épouser les jeunes hommes qu'elles voulaient. C'est elles qui ont choisi leur mari. Et ce n'était pas quelque chose qui était arrangé dans la famille. Très jeune, Fanny était une jeune femme très courtisée. Et elle épouse, à 17 ans, un jeune homme, Sam Osborne. Et ce mari, elle en était profondément amoureuse. Il faut dire que pour elle, c'était une démarche extrêmement positive de devenir la femme de cet homme. Tout de suite, elle a eu un enfant avec lui, une petite fille qui s'appelle Belle. Mais c'était la guerre de sécession. Sam a dû partir, a laissé sa femme seule avec la petite fille. Et ça a été le début de difficultés personnelles entre Fanny et son mari. Même à un moment donné, il quitte Indianapolis après la guerre et il s'en va du côté de San Francisco. Il veut devenir un chercheur d'or ou un chercheur d'argent, très précisément. Il va s'engager à Austin comme chercheur d'argent dans les mines d'argent et il la laisse seule avec sa petite fille.
Alors là, il faut qu'on s'imagine, c'est vraiment la conquête de l'Ouest, hein, encore.
Ah, tout à fait.
C'est avec les Indiens qui sont, quand c'est raconté par des Blancs, on ne va pas recréer l'histoire de là maintenant dans la minute, mais enfin, c'est les Indiens qui attaquent encore les camps ou les Blancs qui leur tirent dessus. C'est effectivement la fièvre de... Tout le monde se précipite dans un endroit parce qu'on a dit qu'on avait trouvé une pépite, puis 3 mois plus tard, il n'y a plus personne, c'est les villes fantômes. C'est comme ça qu'il faut qu'on s'imagine cette région-là. Mais c'est aussi un pays qui est immense et qui n'a aucun moyen de transport organisé encore réellement à ce moment-là. Il n'y a pas encore le chemin de fer.
Non, le chemin de fer n'existe pas. Il y a uniquement les carrioles ou le cheval. Et il y a aussi, par exemple, dans ces villages, ces bourgades occupées par les chercheurs d'or ou d'argent, il n'y a pour ainsi dire aucune femme. Aucune femme ne suit ses hommes, c'est beaucoup trop pénible, il n'y a donc aucun confort dans les maisons. Et il faut être aussi énergique et aussi amoureuse que Fanny pour décider de rejoindre son mari qui essaye là de faire fortune. Elle décide donc de le rejoindre après quelques mois où elle est seule avec, elle est restée seule. Et elle s'embarque jusqu'à Panama. La solution pour rejoindre la côte de San Francisco à l'époque, c'était descendre jusqu'à Panama, traverser l'isthme, reprendre un bateau de l'autre côté et remonter jusque sur la côte donc ouest des États-Unis.
J'espère que nos auditrices apprécient le trajet, parce que comme ça, comme tu le racontes, ça a l'air clic, 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 vif et bien fait.
Ah, mais c'est quand même imaginer une carte.
C'est quand même un trajet qui est pratiquement de 3 mois, non? Ou 2 mois, en tout cas, de
voyage. Ça prenait beaucoup de temps, effectivement. Et le problème, c'était le passage à Panama, parce qu'il fallait changer, il fallait sortir du train et à ce moment-là, retrouver un bateau de l'autre côté, ce qui n'était pas du tout évident. On n'achetait pas sa place et dire « je pars à San Francisco », bien sûr que non.
Quand le train arrivait encore en plus pour traverser l'isthme de Panama.
Alors, il n'y avait évidemment jamais de certitude. Il fallait attendre à la gare jusqu'à ce qu'on trouve une place. Elle réussira, Fanny. Elle réussira et même avec sa petite fille, elle n'hésitera pas à traverser l'isthme, à côtoyer des gens malades et même des morts.
La fièvre jaune sévit dans ces climats humides.
Ou la malaria. Et elle arrivera finalement à Austin, donc cette petite bourgade, pour retrouver son mari, Sam Osborne. Alors je vais vous lire un petit passage pour évoquer un petit peu cette bourgade. Mais depuis qu'elle l'avait rejoint, Fanny ne songeait qu'à une chose, recréer pour lui un nid très douillet. Le confort de Sam, les aises de Sam, la sérénité de Sam. Elle s'était débrouillée pour transformer la cabane de toile et de papier où il l'avait installée, sans poêle, sans meubles, sans même de fenêtre, un antre, en une maisonnette avec, dans ce paysage aride, un potager. Table, chaise, lit, elle avait tout fabriqué de ses mains. Efficace et secrète, elle s'était mise au travail. Ce côté fourmi, ce côté enveloppant aussi, rendait Fanny extrêmement attirante aux yeux des hommes. Sam Osborne, comme Stevenson, comme Ned Field, était de ces mâles jeunes et très virils qui aiment qu'on s'occupe d'eux. Elle était de ces femmes, à la fois mystérieuses et terriennes, qui tissent autour de leurs proches un cocon. Cocon que Stevenson et tous les autres trouveraient sécurisant. Cocon que ses détracteurs qualifieraient un jour d'étouffant. Il est vrai que, mine de rien, elle imposait sa marque. 3 mois après son arrivée, elle avait tout chamboulé dans la vie du camp. Pour lui, elle était l'épouse, épouse admirée, épouse respectée qui concrétisait l'image très chérie de la famille et du foyer. Voilà. Alors bien sûr, la vie à Austin, ça va se terminer très très vite. Les filons d'argent n'existe plus. Ils étaient d'ailleurs plutôt une utopie qu'autre chose. Sam disparaît et elle se retrouve seule à San Francisco avec sa petite fille sans un sou et ne sachant pas si son mari est mort dans une échauffourée ou s'il reviendra un jour la rechercher. C'est pour elle une épreuve très très dure, mais une fois de plus, elle se met au travail. C'est une femme qui est en même temps extrêmement intéressante et manuelle, si je puis dire. Toujours, elle a créé, on le dit avant, elle a donc réussi à faire un potager dans une bourgade des États-Unis où il n'y avait rien du tout. Elle est capable de fabriquer des meubles. Et on verra au cours de sa vie qu'elle a fait ça plusieurs fois. Pour elle, c'était très, très important. Et quand elle doit gagner sa vie, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle s'improvise couturière. Elle coud toute la nuit des ruchers, des dentelles pour les dames de San Francisco, de manière à pouvoir assurer sa subsistance et la subsistance de sa fille. Et il faut peut-être quand même faire remarquer que normalement, c'était une jeune fille d'une famille quand même de moyenne et qu'elle avait reçu de l'argent à son mariage, qu'elle avait prétendu qu'elle l'avait gardé. Et en fait, elle avait déjà tout donné à son mari lorsqu'il est parti là-bas. Donc, ses parents pensaient qu'elle avait une certaine somme pour subsister, ce qui n'était pas le cas. Donc, elle arrive toujours à se débrouiller seule, mais elle paye un prix très, très cher à ce moment-là dans sa vie.
Si on essaie de s'imaginer le San Francisco de l'époque, Annette, ce n'est pas certainement pas le San Francisco que nous connaissons aujourd'hui, avec des gratte-ciels, des buildings, reste vaguement quelques quartiers, en tout cas sur le port, qui peut-être évoquent le San Francisco qu'a connu Fanny Stevenson.
Bon, c'était, je pense, une ville qui était, à ce moment-là, en chantier continu. Puisque c'était la ville où arrivaient effectivement tous les gens de l'Est. Et c'est comme Sam Osborne, dans notre histoire, il n'a pas fait fortune, mais d'autres ont fait fortune quand même là-bas. Et ceux-là commençaient à construire à San Francisco des villas, des maisons. Et la ville commençait à avoir un cercle d'intellectuels, de poètes, d'artistes, d'ailleurs avec lesquels Fanny nourra des contacts et qui lui ouvriront quand même tout un univers auquel elle n'avait jamais pensé avant. C'est grâce à ses amis de San Francisco qu'un jour elle décidera de partir ailleurs.
Voilà, alors... Elle croyait son mari perdu, même mort, parce qu'on lui a carrément dit qu'il était mort, attaqué par les Indiens.
Voilà.
Et pourtant, un jour, il se ramène à sa porte.
Voilà, il arrive, il la retrouve dans le petit hôtel où elle avait élu domicile. Et c'est évidemment comme un dieu qui revient, finalement. Il n'est donc pas mort alors qu'on lui avait annoncé qu'elle serait seule. Et il arrive, il se débrouille, il trouve une place qui lui ramène un petit peu d'argent et ils arrivent à reprendre une vie commune.
Mais qu'il y a quand même déjà quelque chose qui est un peu cassé.
Mais effectivement, elle est assez triste quand même. Elle sent que cet homme, elle ne peut plus compter sur lui. Quelque chose lui manque et de surcroît, elle découvre que Sam Osborne n'est pas un mari d'une fidélité absolue.
Comme et tu es gentille.
Bon, pour elle, c'est quelque chose qu'elle elle est très intransigeante, Fanny. Elle est profondément amoureuse de lui. Elle a besoin de lui. Elle a une idée très, très haute de ce qu'elle aimerait vivre dans sa famille. Et évidemment, elle se rend compte qu'avec lui, ça ne sera pas possible. Et quand elle est devant l'évidence qu'il vit avec une autre femme, même si elle a eu un deuxième enfant récemment avec lui, pour elle, c'est insupportable. Et c'est le début, effectivement, de la faille dans leur existence commune. Faille qui se terminera donc par un divorce et ça durera très très longtemps.
Mais il faut quand même bien constater que ce qu'il y a par rapport, disons, ce qu'on découvre par l'intermédiaire de la vie de Fanny à ce moment-là, c'est que visiblement on menait une vie de couple à cette époque-là assez particulière. Ça avait l'air de choquer personne que Sam Osborne vive dans la ville de San Francisco avec sa maîtresse, dans un appartement dans lequel il restait toute la semaine, et qu'il rentre trouver sa femme légitime qui se trouvait de l'autre côté de la baie d'Oakland pour aller vivre avec sa famille. Et personne n'avait l'air de s'offusquer de cette situation. Donc il y a quand même malgré tout une situation particulière de la vie de couple à cette époque-là.
Par contre, effectivement, on était peut-être très très tolérant face au mari dans une situation comme cela. Face à elle, je pense qu'on n'aurait pas du tout été tolérant. Ça, c'est sûr qu'elle devait accepter cette situation, mais que lui n'acceptera en aucun cas qu'elle ait une liaison avec quelqu'un d'autre et qu'elle décide de faire sa vie avec un autre homme. Alors, c'était effectivement des mœurs peut-être... permissif pour certains, mais pas du tout pour d'autres. Et une fois de plus, les femmes, là, n'avaient aucune liberté et aucune marge de manœuvre. Et probablement que Fanny, qui est une femme quand même très volontaire, ne supportera pas cette situation. Et elle osera faire ce que, je pense, beaucoup de femmes avaient eu envie de faire, mais ne feront pas à l'époque, c'est-à-dire qu'elle rompt, qu'elle décide de partir et qu'elle ne supportera pas d'être considérée comme celle qu'on utilise de temps en temps. C'est quelque chose qu'elle ne supporte pas. Mmh. Et c'est peut-être bien ça qui fait la ténacité, l'obstination de son caractère et qui lui donne le courage d'aller jusqu'au bout de la construction de son existence.
Oui, parce qu'il y a de frappant, c'est que finalement, surprenant dans un premier temps, elle ne elle fait pas de scandale monstrueux parce que son mari vit avec une maîtresse, mais par contre, elle va prendre des décisions pour sa propre vie qui prouvent qu'elle a décidé de mener sa vie, dans le sens qu'elle va partir, je pense que tu vas nous en parler maintenant, mais c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est qu'elle va accepter quand même pendant longtemps de garder cette union avec cet homme. Ce n'est que quand elle rencontrera quelqu'un d'autre et que ce qu'elle veut vivre avec ce quelqu'un d'autre, qu'elle décidera de franchir ce pas grave pour l'époque, parce qu'inhabituel, du divorce. Mais pendant tout ce temps-là, elle aura simplement décidé de fuir et de s'organiser sa propre existence à elle.
Oui, bon, on verra aussi que c'est une femme qui a des moments dans sa vie où elle est triste. Elle part même parfois dans des déprimes graves, quelque chose qui ressemble presque à des crises de maladie mentale. Et c'est vrai que je pense que c'est quelqu'un qui a dû avoir besoin de beaucoup de temps et d'occasion pour arriver à sortir d'elle-même. Je pense aussi que c'était une femme, enfin, d'après ce qu'on en déduit du livre d'Alexandra Lapierre, c'est une femme pour qui les conventions n'étaient pas importantes. Les conventions sociales, quelque part, elles s'en moquent complètement, dans un sens ou dans un autre. Ce qu'elle ne supporte pas, c'est la trahison affective. Mais quelque part, qu'on le considère comme ci ou comme ça, ce n'est pas ça qui compte pour elle. Et elle va d'ailleurs, dans d'autres situations de sa vie, rompre complètement avec... Elle va faire ce qu'elle pense juste, mais peu importe si c'est dans les conventions, dans ce qu'on devrait penser si on est la femme d'eux ou la fille d'eux.
Mais bizarrement, ce n'est pas une lutte contre les conventions, c'est sa vie qu'elle mène. Oui. C'est-à-dire qu'elle n'en fait pas un étendard.
Non, elle était donc, entre autres, pas du tout féministe. Alors que pour nous maintenant, c'est l'exemple, on peut la considérer comme quelqu'un d'exemplaire dans sa recherche et qui correspond à ce que nous, on défend en tant que féministe, mais elle s'est moquée littéralement de sa fille qui, elle, a justement brandi l'étendard à suffragette aux États-Unis au début du siècle.
Alors, tu parles de sa fille, peut-être, et tu as évoqué sa famille tout à l'heure. Peut-être avant de continuer le déroulement de sa vie, on pourrait quand même préciser que la famille est une chose qui va jouer un rôle insensé dans la vie de Fanny Stevenson.
Oui, je pense que c'est impossible de parler d'elle sans parler de ses enfants et après de son deuxième mari, donc Robert Louis Stevenson, pour lequel elle s'est dévouée. Vraiment, on peut le dire, corps et âme, dans le sens qu'elle y a perdu sa santé et même parfois, effectivement, son intégrité morale à certains moments donnés, son intégrité, disons, psychique, parce qu'elle avait tellement à faire, tellement de soucis, tellement de responsabilités qu'elle craquait.
Mais il y a peu de familles qui sont à ce point-là unies à vivre toujours ensemble, comme je l'ai lu au travers de la vie de Fanny Stevenson. Elle vit non seulement une vie incroyable et longtemps avec ses enfants, sa fille va la rejoindre et va vivre jusqu'à vraiment les derniers moments de sa vie avec elle, quasiment. Son fils va vivre une bonne partie de sa vie avec elle. Elle perdra un enfant, on en parlera peut-être une autre fois, un autre moment. Et puis elle vit encore avec sa sœur, avec une autre sœur qu'elle marie. Bref, la famille est toujours là,
le petit-fils vit aussi tout proche. Voilà. Les beaux-fils
c'est vraiment la tribu,
intégrés.
Quoi.
C'est une sorte de tribu. Et je pense que ça, c'est aussi une sorte d'œuvre de Fanny Stevenson. Elle en avait besoin. Et ce côté étouffant dont on parlait tout à l'heure, ça fait partie du personnage. Elle avait besoin de cela, elle avait besoin de sentir autour d'elle tout le monde. Ce n'est pas une femme qui vit volontiers en solitaire, ce n'est pas une recherche de ce type-là qu'elle fait. Mais elle est avec les gens parce qu'elle veut les aider aussi. Pour elle, ça représente quelque chose de fondamental et d'important. Mais en même temps, elle ne se perd pas au point de vue dans sa personnalité profonde. Ce n'est pas un dévouement uniquement altruiste, si je puis dire. C'est aussi un dévouement qui fait partie de la personne. Et je pense que ça peut être aussi une sorte d'école de vie intéressante. On peut trouver là quelque chose à suivre.
Alors, où nous en sommes, Annette, pour reprendre un peu le fil conducteur de sa vie, après ces petites réflexions sur des choses plus de fond, qu'est-ce qui va se passer? Alors, effectivement, face aux infidélités de son mari et à ses désirs à elle, elle va prendre une décision très importante.
Elle se lance à un moment donné dans des cours de peinture. Elle a envie de savoir peindre. Elle fait quelques cours à San Francisco et elle décide un jour qu'elle doit partir en Europe, que c'est en Europe qu'il y a des bonnes écoles de peinture, des académies, comme on disait à l'époque, et que c'est là qu'elle doit aller pour parfaire sa technique. Effectivement, sa fille Belle, qui est une adolescente à ce moment-là, se met aussi à faire de la peinture comme sa mère. Et Belle a plus de talent que Fanny. Fanny s'en rend compte et aimerait pousser sa fille dans une activité d'artiste. Et raison pour laquelle elle décide effectivement un jour, elle met son mari devant l'évidence qu'elle veut partir faire des études de peinture en Europe et qu'il faut qu'il accepte le départ de la famille et qu'il accepte aussi donc de payer une petite somme pour que chaque mois elle puisse vivre là-bas.